est capable de procéder à des analyses qui tiennent debout. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris.
C'est dangereux de conduire bourré, mais on va quand même pas rentrer à pied.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Thank you. Tu te rappelles, net et môme, t'avais même peur des araignées. Sous un képi, que t'as l'air drôle, c'est pas normal, t'as dû te tromper. T'as le droit de rêver, vers la lumière, relâcher tes souliers, partir en marche arrière, pas regarder derrière, ramasser tes osselets, tes crayons, ton plumier. T'étais myope, j'étais voyou, on ébruitait nos jeunes années. J'ai mal tourné, je suis au trou, je gaspille mes reins sur ce pucier. Tu vois, j'ai le droit de rêver sans la lumière. Plus de lacets ou souliers, tous dans ma tanière. J'invente des prières, je comprends plus, je comprends pas que t'aies pu m'oublier. Mais t'as dû paumer tes lorgnons. Mais cherche bien là, près du mur, dans la cour du lycée, je crois revoir tes vieilles montures en octobre au pied d'un marronnier. Tu sais, t'as le droit de rêver vers la lumière, piétiner ton képi, faire sauter la barrière, écouter mes prières, parler à un enfant, à chinapant, à la
Thank you. C'est l'hiver et nous tournons en rond sans rien faire, sans chanter de chansons au fond des corridors, enfants des courants d'air. Au-dessus du grillage, on voit l'arrogance de leurs armes, tu vois. Je ne suis pas à plaindre, crois-moi, on s'occupe de moi. On dirait qu'ils veulent nous détruire. On dirait qu'ils veulent nous réduire. Je n'ai pas de remords, je suis un enfant perdu. Je suis dans les nuages, c'est vrai. Ici rien n'est réel, tu sais. Peut-être qu'on se réveille jamais, mais qu'est-ce qu'on avait fait? Je suis hors la loi, au bout de plein total et de cendre. Je suis hors la loi, la vie est au-delà, tu lui ressembles.
La vie est au-delà, tu lui
pas total et de sombre. J'suis en la loi, le ciel est gris acier comme en décembre. Mais j'attends, 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 j'attends.
Bon, d'abord, qu'est-ce qu'on entend exactement par oubliette ? Littéralement, le mot vient du verbe oublier. C'est donc un endroit destiné à oublier des prisonniers qu'on laissait donc mourir de faim. Concrètement, c'est une pièce fermée dont il est à peu près impossible de sortir, comme par exemple une sorte de caveau sans porte, avec juste une étroite ouverture au sommet par où on jetait les prisonniers. À ne pas confondre avec les cachots, donc. Ceux-ci sont, de manière très banale, des prisons avec une porte, éventuellement une fenêtre, voire des commodités de type latrine. Un cul de basse fosse, quant à lui, et je cite le lexique des termes d'art de Jules Adeline, c'est un cachot pratiqué dans les sous-bassements des constructions fortifiées du Moyen-Âge. Ce qu'il différencie d'un cachot ordinaire, donc, c'est juste l'endroit où il est situé, dans le château lui-même. C'est bien la fonction qui fait l'oubliette. Et c'est bien comme ça qu'on l'entend dans le langage moderne. Quand on dit que quelque chose est mis aux oubliettes, ça veut bien dire qu'on n'y reviendra pas, qu'on le passe par pertes et profits, qu'on en fait un classement vertical. Enfin, qu'on l'oublie, quoi. Mais des oubliettes, ça n'existe pas parce que, justement, on n'oublie jamais personne volontairement dans un cachot. Au Moyen-Âge, la justice est publique, démonstrative et ostentatoire. Quand on décide de punir un malfaiteur, un traître, un criminel, jamais on ne va le cacher dans un coin et l'oublier. Il faut que tout le monde le sache, car la justice est exemplaire. C'est-à-dire qu'elle doit servir d'exemple à tous ceux que le crime tenterait. C'est pour ça qu'on a inventé le pilori et autres moyens d'exposer les criminels à la vue et à la vindicte de tous. C'est pour ça aussi qu'on a inventé le système d'amende honorable. Vous connaissez bien l'expression « faire amende honorable », non ? Mais est-ce que vous en connaissez l'origine ? Au Moyen-Âge, il ne s'agit pas seulement de présenter des excuses. C'est une vraie peine, une peine morale, psychologique, qui s'ajoute d'ailleurs parfois à des peines physiques. L'histoire des bourgeois de Calais. Vous savez, cette histoire pendant la guerre de Cent Ans, où les représentants de la ville, le conseil municipal si vous voulez, a dû demander pardon au roi d'Angleterre Édouard III, en chemise, la corde au cou, et lui donner les clés de la ville. Eh bien, ce n'était pas du tout exceptionnel. C'est ça, l'amende honorable. Ça a été infligé souvent, à plein de monde, et jusqu'à Jacques de Molay, le grand maître des Templiers dans Les Rois Maudits, avant qu'on ne le brûle en place publique. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Tout ceci pour dire que la justice, elle n'est pas cachée au fond d'un cachot oublié. Même les exécutions capitales donnent lieu à représentation publique, précédée de la fameuse charrette d'infamie, celle qui sert d'épreuve ultime à Lancelot du Lac. Parce que c'est avant tout à la renommée d'une personne qu'on s'attaque. On a du mal à comprendre ça de nos jours, mais c'est très important au Moyen-Âge. Gueuses ou seigneurs, tous sont très attachés à leur honneur, à leur réputation. À part quelques criminels invétérés, peut-être, et encore. Enfin, on s'écarte de notre sujet. Donc, on disait que les oubliettes, stricto sensu, ça n'existe pas. En fait, le mot lui-même est très ancien. En 1390, dans l'affaire de Marguerite de Bruges, qu'on peut suivre assez précisément dans le registre criminel du Châtelet, deux personnes, convaincues d'assassinat, sont remises par le prévôt de Paris à l'official, qui les enferme dans la prison épiscopale, en un lieu, je cite, « que l'on appelle Oubliette ». Oubliette, en 1390 donc. Mais on apprend ensuite qu'il ne s'agit pas du tout de les enfermer à jamais et de les oublier là, puisqu'ils en sortent souvent pour de nombreux interrogatoires, certainement un peu musclés d'ailleurs, jusqu'à ce que l'un d'eux, un mois plus tard, craque et avoue le meurtre. Souvent donc, on fait l'amalgame avec les cachots où, c'est vrai, des personnes ont été emprisonnées jusqu'à leur mort, y compris parfois dans des conditions épouvantables, avec, pour tout régime alimentaire, le pain de douleur et l'eau de tristesse, comme on dit à l'époque. Effectivement, la peine à perpétuité existe. D'une manière générale, le sentiment religieux et la peur du jugement dernier poussent les hommes du Moyen-Âge, les juges, à éviter le plus possible la peine de mort. Les écrits le prouvent, les condamnations à mort sont assez peu nombreuses en fait, et toujours justifiées par la nécessité d'empêcher le coupable d'entraîner avec lui dans le mal des âmes innocentes. C'est pour ça qu'on le pousse à se repentir et à demander pardon à Dieu et aux hommes. Si ce repentir est jugé valide, le coupable ne sera pas condamné. En revanche, il lui sera offert la possibilité de prier pour son âme dans le calme et la solitude, sans être troublé par les plaisirs terrestres et tout ce qui pourrait le détourner d'une juste pénitence pour le reste de ses jours, au pain et à l'eau dans un cachot, par exemple. Mais on ne l'oublie pas, il est nourri, surveillé, et c'est pour ça qu'on a pu retrouver des culs de basse-fosse, sordides, insalubres certes, mais équipés de latrines. Un certain confort à cette époque. Pourquoi aurait-on équipé de ce type de dispositif des oubliettes ? Pourquoi offrir des latrines à quelqu'un qu'on ne nourrirait même pas, puisqu'il est oublié ? Il existe quand même une peine qui se rapprocherait éventuellement d'une oubliette, en fait, et qui consiste à enterrer vivant, généralement sous le gibet. Si, si, ça existe, on en a des traces. Pour les femmes, surtout, pour des questions de pudeur, en fait. Cette forme d'exécution relève aussi de la peur des vivants d'être confrontés aux suppliciés. L'enfouissement est une manière de conjurer cette peur de voir les revenants venir hanter les vivants. Mais c'est très peu courant, et là encore, l'exécution est publique et exemplaire. Ce sont ces deux types de peines qui ont poussé les poètes romantiques au XIXe siècle à diffuser cette notion d'oubliette. Un jour, Victor Hugo, en visite à Villers-la-Ville, en Belgique, vit une prison médiévale dans une abbaye en ruine. Il s'en servira pour décrire des oubliettes dans Les Misérables. De même, Balzac et d'autres tiendront pour acquis ce genre de supplice et mettront des oubliettes un peu partout.
C'est bien plus marrant, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même. Je t'aime, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Chaque fois qu'elle sort, même dans elle est...
la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Écoute même un petit joint de temps en temps. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Non.
Ma mère m'aimait et je suis en galère. Je me souviens, ma mère disait, mais je n'ai pas cru ma mère. Ne traîne pas dans les ruisseaux, bats pas comme un sauvage, t'amuse pas comme les oiseaux. Elle me disait d'être sage. J'ai pas tué, j'ai pas volé. Je voulais courir la chance. J'ai pas tué, j'ai pas volé. Je voulais que chaque jour soit dimanche. Je me souviens, ma mère pleurait. Dès que je passais la porte, je me souviens comme elle pleurait. Elle voulait pas que je sorte. Toujours, toujours elle disait, t'en vas pas chez les filles. Fais donc pas toujours ce qui te plaît. Dans les prisons y a des grilles. Un jour les soldats du roi t'amèneront aux galères. Tu t'en iras trois par trois, comme ils ont amené ton père. Tu auras la tête rasée, on te mettra des chaînes. T'en auras les reins brisés, et moi j'en mourrai de peine. Toujours tu rameras quand tu seras aux galères. Toujours, toujours tu rameras. Tu penseras peut-être à ta mère. J'ai pas tué, j'ai pas volé, mais j'ai pas cru ma mère. Et je me souviens qu'elle m'aimait pendant que je rame aux galères.
la musique c'est bidon. J'ai tenu une semaine et demie, oh, à charger des camions. Quand je dis que je voudrais courir le monde, y'a toujours quelqu'un qui m'aime pour me répondre. Oh, c'est pas ça la vie. Oh, c'est pas ça la vie. On m'a dit tais-toi quand tu pars. Par l'émotion, j'ai appris le silence qui fait mal, oh, pour cacher mes passions. Et quand j'entends en moi des révoltes qui grondent, y a toujours quelqu'un qui m'aime pour me répondre. Oh, c'est pas ça la vie. Oh, c'est pas ça la vie. On m'a dit apprends la violence, oublie tes illusions. Alors je joue l'indifférence. Oh, je récite mes leçons. Quand je préfère me faire tendre que me faire tondre, y'a toujours quelqu'un qui m'aime pour me répondre. Oh, c'est pas ça la vie. Oh, c'est pas ça la vie.
Et puis il y a cette peine de l'enfouissement. Parce que finalement, c'est bien ça une oubliette, un enterrement vivant. On imagine le condamné dans un caveau dont on mure la porte pour ne plus jamais l'ouvrir. Personnellement, je trouve ce fantasme intéressant parce qu'il renvoie très nettement à l'emmurement d'Antigone, par exemple, chez Sophocle. Car cette peine a bien existé. Il s'agissait d'une méthode d'exécution très rare, appliquée dans l'Antiquité aux Vestales, qui rompaient leur vœu de chasteté, ou laissaient s'éteindre le feu dont elles avaient la garde. Elles étaient descendues dans une petite cellule avec une lampe à huile et un peu de nourriture pour que leur agonie soit prolongée. Et puis cela renvoie aussi à d'autres types d'emmurements, comme l'enfermement des cardinaux, par exemple, pour les forcer à se mettre d'accord, vous savez, pour l'élection du pape Jean XXII en 1316. Ou aux cellules des recluses, ces femmes qui décidaient de s'enfermer à vie dans une minuscule cellule avec juste une petite ouverture pour recevoir des dons de nourriture. On trouve trace de ces recluses au cimetière des Innocents, à Paris, et bien sûr dans Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Mais si, au Moyen-Âge aussi, on trouve trace de condamnation à l'emmurement, il ne s'agit pas du tout d'enterrer vif le condamné. Quand on parle d'emmurement avec mur étroit, cela signifie un banal emprisonnement, ce dont nous venons de parler. Quand on parle de mur large, il s'agit d'un statut assez comparable à ce que l'on appelle aujourd'hui la résidence surveillée. Dans certains cas plutôt rares, et souvent des cas d'hérésie, le mur étroit pouvait être aggravé en carcer strictissimus, mur strict, et le condamné était mis au cachot, enchaîné et privé de tout contact. C'est cet in passé dont parle Victor Hugo. Mais ça reste un cas de cachot classique. Et même au XIXe siècle, les vrais connaisseurs de l'architecture médiévale ont des doutes. Mérimée, dans son étude sur les arts au Moyen-Âge, dit que, sans révoquer absolument en doute l'existence des oubliettes, on doit cependant les considérer comme fort rares. Les oubliettes probables que nous avons examinées consistent en un puits profond ménagé dans un massif de construction et recouvert autrefois par un plancher. En fait, on sait depuis que ce qu'il décrit là correspond beaucoup plus certainement à des celliers ou des gardes-mangers. Viollet-le-Duc, dans son dictionnaire raisonné de l'architecture médiévale, écrit même « Il n'y a pas de château du Moyen-Âge dans lequel on ne montre des oubliettes. Et cependant, nous devons avouer que nous avons très rarement trouvé des fosses auxquelles on puisse donner ce nom. » Et il ajoute « Il faut constater aussi que les romans et les chroniques du Moyen-Âge parlent souvent de chartres, de cachots, mais d'oubliettes, il n'en est pas question. » On critique beaucoup Viollet-le-Duc sur son interprétation de la Restauration, mais son travail reste tout de même une référence. Et sur ce coup-là, ses recherches sont tout de même plus que sérieuses. Pour lui, parmi tous les châteaux, abbayes et officialités, les officialités, ce sont des tribunaux ecclésiastiques. Donc, parmi tous ces lieux qu'il a pu voir, et il en a visité beaucoup, il n'en reconnaît que trois qui pourraient être qualifiés réellement d'oubliettes. À Pierrefonds, Chinon et la Bastille. Et même sur ces trois-là, de nos jours, les archéologues et historiens ont de sérieux doutes. Alors, si pour vous les oubliettes, ce sont des endroits où les prisonniers sont oubliés, dans le sens où ils ne font plus partie du monde, où ils sont mis à l'écart de la société, pourquoi pas ? Mais du coup, une oubliette, et c'est synonyme d'à peu près n'importe quel cachot ou prison, voire même de la cellule d'un moine cloîtré. C'est un abus de langage. Une oubliette, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. À part dans la littérature ou le cinéma, bien sûr.
Porte du pénitencier. Bientôt vont se fermer.
Et c'est que je finirai ma vie comme d'autres galants ont fini. Pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. Tout perdu, demain tu peux gagner. Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons. Il faut les oublier.
Personne ne va le voir. Personne blanches, dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam, et des chemises blanches, quand il veut en changer, quand il veut en changer. Un jour il lui demande, dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam, un jour il lui demande.
Ressasser des mêmes théories, on a tellement tiré chacun de notre côté, que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée, ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit nez, car c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. On va pas dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Je te dis seulement bonjour, fais gaffe à l'amour. Voilà, c'est fini. Aujourd'hui ou demain, c'est le moment où j'aimais. Peut-être après-demain, je te retrouverai. Car c'est fini. Ah, c'est fini. J'ai fini par me dire qu'on éviterait le pire, qu'il fallait mieux couper plutôt que déchirer. Je finis par me dire que peut-être on va grandir, et que même si c'est non, que même si c'est con, tous les deux nous savons que de toute façon, voilà, c'est fini. Ne sois jamais amer, reste toujours sincère. T'as eu ce que t'as voulu, même si t'as pas eu ce que t'as eu. Voilà, c'est fini. Nos deux mains se desserrent de s'être trop serrées. La foule nous emporte chacun de notre côté. Car c'est fini. fini. Voilà, c'est fini. Je ne vois plus au loin que ta chevelure nuit. Même si au fond de moi, c'est toujours moi qui te suis. C'est fini.
Ce soir, vous dire très simplement au revoir. Merci à vous tous qui, de Valenciennes à Thionville, d'Alsace en Bretagne, des Antilles à la Réunion, de la Manche à la Lozère, de la Haute-Savoie au Var et à la Corse. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Oui, bonne chance du fond du cœur et dans ces temps difficiles où le mal rôde et frappe. Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur.
Hexagone, l'émission 100% AOC France.
Au revoir.
À la semaine prochaine.
Reach out, touch faith.
Lift up the receiver.